Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église est consacrée principalement au voyage apostolique que le pape vient d'effectuer en Slovaquie et en Hongrie. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Burundi, au Kenya et en Égypte, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité de l'Église avec les activités du pape pour la journée de jeudi. Le pape a reçu jeudi 16 septembre au Vatican les modérateurs des associations de fidèles, des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles à Rome pour une rencontre organisée par le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie sur le thème de la responsabilité de la gouvernance dans les associations laïques, un service ecclésial. En tant que membre d'associations de fidèles, de mouvements ecclésiaux internationaux et d'autres communautés, vous êtes aussi, malgré vos limites et vos péchés quotidiens, un signe clair de la vitalité de l'Église, a déclaré le pape, les qualifiant de force missionnaire et présence prophétique ayant la responsabilité de construire l'avenir du Saint-Peuple fidèle de Dieu. Nous devons comprendre que l'évangélisation est un mandat qui provient du baptême, qui est baptisé a le devoir d'évangéliser, a ajouté le successeur de Pierre. Mais n'oubliez jamais que construire l'avenir ne signifie pas abandonner le jour présent que nous vivons. Au contraire, l'avenir doit être préparé ici et maintenant en apprenant à écouter et à discerner le temps présent avec honnêteté et courage et en étant prêt à une rencontre constante avec le Seigneur et à une conversion personnelle constante, a-t-il poursuivi, mettant en garde contre le risque de vivre dans un monde parallèle, distillé, loin des défis de la société, de la culture et de toutes les personnes qui vivent à leur côté et attendent leur témoignage chrétien. Mercredi, conformément à la tradition, le pape François a effectué un détour par la basilique Sainte-Marie-Majeure avant de rentrer au Vatican. Le pape François rentrait à Rome mercredi 15 septembre dans l'après-midi au terme de sa tournée de 4 jours à Budapest et en Slovaquie. Comme c'est la tradition, au retour de chaque voyage apostolique après son atterrissage à l'aéroport de Rome-Ciampino, le pape François s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour prier devant l'icône de la Vierge Marie Salus Populi Romani, le Saint-Père, et ensuite retourné au Vatican. Immédiatement après son départ en avion de Bratislava, le Saint-Père avait envoyé un télégramme à la présidente de la République de Slovaquie dans lequel il avait exprimé sa profonde gratitude au peuple slovaque pour son accueil et son hospitalité généreuse. Ce message a été suivi de télégrammes adressés au président de la Croatie Zoran Milanovic et de Bosnie-Herzégovine Zeliho Komšić, ainsi qu'au président de la République italienne Sergio Mattarella. Au retour de mon voyage apostolique à Budapest et en Slovaquie, où j'ai eu la joie de rencontrer la population locale, riche en ferveur spirituelle, je vous adresse, Monsieur le Président, mes salutations cordiales et vous assure d'une prière spéciale pour le bien et la prospérité de la nation italienne sur laquelle j'invoque les bénédictions célestes, écrit le pape dans son message au président italien. Dans l'avion qui le ramenait de Bratislava, mercredi 15 septembre, au terme de son 34e voyage apostolique en Hongrie et en Slovaquie, le pape François s'est adressé aux journalistes au cours de la traditionnelle conférence de presse. L'échange, qui a duré 30 minutes, a notamment porté sur sa rencontre avec le chef d'État hongrois, les valeurs européennes, l'accès à l'Eucharistie, l'avortement ou encore le mariage. Les détails avec Cyprien Viette.
Le pape François s'est une nouvelle fois inquiété de l'hiver démographique qui touche de nombreux pays européens et il a salué les efforts de la Hongrie pour soutenir la natalité. Il s'est aussi félicité de l'engagement écologique du gouvernement de Budapest et contrairement aux spéculations médiatiques, il a expliqué qu'il n'avait pas parlé d'immigration avec le Premier ministre Viktor Orban. Le pape a été interrogé par un journaliste américain sur l'accès des responsables politiques pro-IVG à la communion. François l'a répété fermement, l'avortement est un meurtre car l'embryon est une vie humaine qui doit être respectée. Néanmoins, il a combo pasteur de résoudre les situations comme l'esprit l'indique. Le pape a expliqué qu'en tant que prêtre, il n'avait jamais refusé la communion à quiconque. Enfin, sur la question du mariage homosexuel, François a salué les lois qui tentent d'améliorer la situation des personnes homosexuelles sur le plan civil, en citant l'exemple du Pax en France, qui donne certaines sécurités en matière de protection sociale et d'héritage. Mais il a rappelé que le mariage se situe sur un plan différent. De nombreuses personnes d'orientation homosexuelle font une démarche de pénitence. Elles demandent conseil aux prêtres, l'Église les aide, mais le sacrement du mariage, c'est autre chose, a clairement expliqué le pape François.
Alors que le pape François était dans l'avion de retour vers Rome, les Slovaques qui l'ont accueilli pendant 3 jours et demi n'ont pas caché leur joie devant les fruits de ce voyage apostolique. Le pape François avait tout juste quitté le territoire slovaque mercredi après-midi que de nombreux témoignages ont fait part de leur gratitude pour cette visite apostolique dans le pays. Voici la réaction du père Martin Kramara, porte-parole de la conférence épiscopale slovaque, pour qui cette visite apostolique du pape a semé une grande joie.
La visita del Santo Padre in Slovacchia ci ha lasciato sentimenti di grande gioia.
La visite du Saint-Père en Slovaquie nous a laissé un sentiment de grande joie et de nombreuses et belles pensées pour notre réflexion. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Les encouragements du Saint-Père ont été très riches, tant pour nous, prêtres, que pour les évêques ou les personnes consacrées. Ce fut une invitation à vivre une foi qui n'est pas rigide, mais en mouvement, une foi qui va à la rencontre, qui est prophétique, une foi qui ne se focalise pas sur les chiffres et les expressions de pouvoir, mais qui a confiance, même dans les petites choses, que c'est finalement la puissance de Dieu qui décide de vivre une telle foi, qui soit un signe auquel on résiste, non dans le sens de provoquer des conflits, mais de celui d'exiger de nous-mêmes que nous donnions un témoignage authentique de l'Évangile, que nous ne tombions jamais dans l'égoïsme et la superficialité. Merci Saint-Père, nous n'oublierons pas de prier pour vous et nous vous demandons aussi de prier pour toute la Slovaquie.
La preghiamo di pregare anche per la nostra Slovacchia.
L'actualité de l'Église nous conduit à présent au Congo-Brazzaville. Le samedi 11 septembre, la sœur Karel Marie-Laure Banganfutu a émis publiquement à la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre sa profession perpétuelle.
Cette messe qui a été présidée par Mgr Miguel Angel Olaveri, archevêque de Pointe-Noire, a connu la participation de Mgr Daniel Mizonzo, évêque d'Enkaï, président de la Conférence épiscopale du Congo, des prêtres religieux religieuses, parents et amis venus de l'archidiocèse et d'ailleurs. Dans son homélie, Mgr Miguel a exhorté la prophète à aimer le monde comme Jésus l'a aimé.
Toi qui embrasses la vie consacrée définitivement, chère sœur Karel Marie-Laure, aime ce monde comme le Christ l'a aimé pour le transformer par ton regard. Un regard qui transformera ta vie jour après jour et qui transformera votre vie communautaire et les personnes qui vous sont confiées à travers votre vie de prière, votre travail, dans votre mission, selon votre charisme.
Pour la sœur Karel Marie, cet engagement est une nouvelle étape.
Ma joie est grande parce que je viens d'avoir fêté avec mes miens le diocèse dans lequel j'ai entendu pour la première fois l'appel de Dieu. Je dirais que c'est une grande étape parce que je suis devenue aînée dans la congrégation.
En s'engageant définitivement dans la congrégation de sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la sœur Karel Marie a choisi comme parole de vie tirée du livre d'Ésaïe 41, verset 1, « Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Sévérin Monsavo, Pointe-Noire pour Radio Vatican.
Toujours samedi 11 septembre, en Côte d'Ivoire cette fois, le père Jean-Saint-Saint Bayo a été immortalisé par les siens à la paroisse Saint-Jacques de Cocody de Plateau. Une conférence a été prononcée sur la vie du dogmaticien ivoirien rappelé à Dieu il y a de cela un an.
Cette initiative a été rendue possible grâce aux efforts conjugués de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire et l'Institut Montabaur qu'il a lui-même créé pour l'an 1 de la naissance au ciel de ce grand dogmaticien ivoirien, le père Jean-Saint Sebayo. Une messe et une conférence sur son héritage spirituel ont marqué la journée hommage qui lui a été dédiée. Pour Martin Loba, président de la dite association dont il fut l'aumônier, cet hommage vise à perpétuer sa pensée, son charisme.
On ne pouvait pas l'oublier parce qu'il a marqué vraiment chaque structure pour laquelle il a été aumônier. On va ensemble réfléchir pour voir comment pérenniser un peu ses œuvres.
La conférence a porté sur le thème « œuvres et visions » du révérend père Jean-Saint Bayo, thème animé par un de ses anciens étudiants, le père Gaston Ogui, professeur de théologie à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan.
Des œuvres du père Jean-Saint Bayo doit retenir essentiellement qu'il a des œuvres que j'appellerais des œuvres académiques et des œuvres de construction humaine. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que cet héritage-là ne soit pas mis dans le tiroir.
Le maître de la parole, comme aimait l'appeler ses disciples, amis et connaissances, était un érudit, un prêtre charismatique doué dans sa science, la théologie dogmatique. Il meurt d'une manière inattendue le jeudi 27 août 2020, quelques jours après s'être pris d'un malaise à Lambon en pleine homélie lors d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jacques de Cocody-les Deux-Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Burundi, malgré les engagements du président Évariste Ndayishimiye, la situation des droits humains dans son pays reste désastreuse et s'est à certains égards détériorée depuis sa prise de fonction mi-2020, affirme jeudi la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays. L'élection de M. Ndayishimiye en mai 2020 avait suscité un espoir d'ouverture au Burundi, après des années de crise marquées notamment par des exécutions sommaires, des disparitions et des détentions arbitraires. Mais, dans son cinquième rapport publié jeudi, la commission affirme que, malgré certaines améliorations, la situation globale a empiré pour les partis d'opposition, les journalistes et les ONG qui font face à une répression renouvelée. Au Kenya, Raila Odinga n'exclut pas une cinquième candidature présidentielle. Quatre fois candidat malheureux à la présidentielle, l'opposant historique kenyan Raila Odinga dément tout accord avec le président Uhuru Kenyatta avant le scrutin de l'an prochain, auquel il n'exclut pas de se présenter. La réélection de Uhuru Kenyatta en 2017 avait donné lieu à des violences faisant plusieurs dizaines de morts. Messieurs Kenyatta et Odinga avaient alors décidé d'une trêve symbolisée par une poignée de main restée célèbre sous le nom de « The Handshake » en mars 2018. Pour beaucoup de Kenyans, ce rapprochement qui s'est depuis approfondi pourrait même aboutir à un pacte entre les deux hommes pour la présidentielle du 9 août 2022. La frappe française qui a tué le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a eu lieu il y a quelques semaines, a indiqué jeudi la ministre française des Armées, Florence Parly. Ce mouvement, créé en 2015 par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel lors du sommet de Pau dans le sud-ouest de la France en janvier 2020. Il est en effet considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la région des Trois Frontières, vaste zone à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des détails avec Hélène Détombe.
Ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait créé l'État islamique au Grand Sahara en 2015. Il était considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la zone dite des Trois Frontières, où se rencontrent les territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, utilisés comme base arrière par les groupes djihadistes. Désigné comme ennemi prioritaire au Sahel, lors du sommet de Pau en France, lui et ses hommes ont tué de nombreux militaires, mais aussi des civils. Le groupe a également pris pour cible des soldats américains. Quatre d'entre eux sont morts en 2017 avec quatre Nigériens dans une embuscade au Niger à la frontière malienne. Les humanitaires n'ont pas non plus été épargnés par la violence du groupe. Six travailleurs humanitaires français ainsi que leur guide et leur chauffeur nigérien ont été assassinés au Niger en août 2020. La mort du numéro 1 de l'EIOCL lors d'une frappe de la force Barkhane intervient dans un contexte d'affaiblissement de l'organisation djihadiste en raison de la mort ou de la capture de plusieurs de ses cadres ces derniers mois et alors que Paris est engagé dans un mouvement de retrait délicat des militaires français au Sahel.
Les réfugiés érythréens ont été victimes d'exactions, notamment d'exécutions sommaires et de viols qui constituent des crimes de guerre manifestes durant le conflit qui fait rage dans le nord de l'Éthiopie, estime Human Rights Watch dans un rapport publié jeudi. L'ONG y détaille le rôle des soldats érythréens ainsi que des combattants rebelles de la région éthiopienne du Tigré dans ces exactions à grande échelle, également marquées par des rapatriements forcés et d'importantes destructions dans deux camps de réfugiés. Les meurtres horribles, les viols et les pillages contre les réfugiés érythréens au Tigré sont clairement des crimes de guerre, affirme la directive de Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique, Laetitia Bader. Durant de nombreuses années, le Tigré a été un refuge pour les réfugiés érythréens fuyant des persécutions dans leur pays, rappelle-t-elle, mais aujourd'hui, ils ne s'y sentent plus en sécurité. Le nord de l'Éthiopie est ravagé par de violents combats depuis novembre, lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accuse d'avoir orchestré des attaques contre des camps militaires.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pressé jeudi le premier ministre libyen Abdelhamid Debda de tenir les élections législatives et présidentielles comme prévu en décembre, deux jours après avoir reçu le président du Parlement et l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. La veille, le conseiller du département d'État américain Derek Chollet, en visite à Tripoli, avait qualifié ce scrutin de meilleure opportunité depuis une décennie de mettre fin au conflit en Libye qui tente de s'extraire d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir. Le président Sissi a insisté sur l'importance de la tenue des élections libyennes à venir pour respecter et mettre en œuvre la volonté du peuple, a indiqué son porte-parole Bassam Radi. La rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde avec Donatien Niembombala.
Cette rubrique sur la prise de position des évêques et la vie de chrétiens dans le monde nous conduit d'abord aux États-Unis d'Amérique. Les réformes de la loi sur les migrations doivent promouvoir l'intégration et l'unité de la famille. C'est ce que demande la Conférence des évêques des États-Unis dans une note signée par Mgr Mario Dorsonville, évêque auxiliaire de Washington et président du Comité épiscopal pour les migrations. Les propos du prélat interviennent après que la commission judiciaire de la Chambre des représentants ait approuvé le 13 septembre les questions à inclure dans le prochain projet de loi de réconciliation budgétaire. Si elle est adoptée, cette législation permettra la légalisation, avec une voie d'accès à la citoyenneté, des millions de Dreamers, immigrants sans papier qui sont venus aux États-Unis en tant qu'enfants à la suite de leurs parents, des détenteurs du statut de protection temporaire, de ressortissants étrangers de certaines nations qui sont autorisés à rester et à travailler aux États-Unis pendant une période où il est jugé dangereux pour eux de rentrer chez eux, des travailleurs agricoles et d'autres travailleurs sans papiers essentiels. Septembre jaune est le nom de l'initiative prise par la communauté missionnaire Marie de Nazareth pour servir ceux qui souffrent du coronavirus au Brésil. C'est ce qui est écrit sur les sites web de la conférence épiscopale brésilienne. Comme si les décès et l'effondrement de l'économie ne suffisaient pas, la pandémie affecte également la santé mentale des personnes. Les cas de dépression, de troubles anxieux et même de suicides ont augmenté en raison de l'enfermement prolongé. C'est le résultat d'une étude de la faculté de médecine de l'université de São Paulo qui a mis en évidence comment un enfant ou un adolescent sur quatre présente ou a présenté pendant la pandémie une anxiété et une dépression de niveau clinique, c'est-à-dire nécessitant l'intervention des spécialistes. Dans ce contexte, les initiatives d'écoute et de conseil telles que celles développées par la communauté catholique Mission Marie de Nazareth dont le charisme est de générer et de former une nouvelle vie qui est active depuis 4 ans dans la paroisse de Santo Antonio à Divinopolis sont donc de plus en plus louables et importantes. Soutenir et rendre hommage aux travailleurs de la santé, tel est le thème du dimanche pour la vie 2021 qui, en Nouvelle-Zélande, sera célébré le 10 octobre, comme le précise le site internet de la conférence épiscopale du pays. Des aides et du matériel de travail sont disponibles en ligne pour les groupes et les paroisses afin de mieux interpréter le thème de cette année qui reconnaît le travail des agents de santé, y compris les aidants familiaux et les agents de santé qui sont en première ligne pour soutenir et protéger la vie. Le choix du thème est motivé par la nécessité d'aller au-delà du débat politique ou de l'argumentation juridique pour apporter un soutien actif et pratique aux professionnels de la santé qui sont actuellement soumis à une forte pression due à la pandémie de COVID-19 et qui subissent l'impact des récents changements apportés à la législation néo-zélandaise pour l'avortement et l'euthanasie. Les travailleurs de la santé sont également témoins de l'impact continu sur la santé et la vie de la pauvreté, de l'exclusion, des attitudes à l'égard du handicap et de la dépendance. 40 jours pour prier en faveur de la vie et mettre fin à l'avortement, c'est l'initiative prévue du 22 septembre au 31 octobre prochain, à laquelle l'archidiocèse de Séoul en Corée du Sud a décidé d'adhérer par les biais de son comité pour la vie. Créée en 2007 au Texas aux États-Unis, la campagne a désormais une portée internationale et implique non seulement les catholiques mais aussi de nombreux groupes chrétiens. Dans la capitale sud-coréenne, en effet, outre l'archevêché, l'association Medical Pro-Life et diverses associations chrétiennes à but non lucratif y participent également. Au cours de cet événement de 40 jours, tous les participants se réuniront donc quotidiennement au parc Léontral de la ville et réciteront une prière spéciale, composée pour l'occasion pour la fin de l'avortement et la protection des enfants à naître. En raison de la réglementation anti-Covid, les temps de prière se dérouleront en petits groupes afin de respecter la distance sociale. Une conférence internationale organisée par la Commission pontificale pour la protection des mineurs et la conférence épiscopale polonaise aura lieu du 19 au 22 septembre à Varsovie, comme annoncé sur son site internet. Y participeront des représentants des évêques et de personnes travaillant dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes dans 20 pays d'Europe centrale et orientale. Notre mission commune est de protéger les enfants de Dieu et les titres de la rencontre internationale qui vise à permettre l'échange d'expériences et l'initiative d'action commune ainsi qu'une coopération plus étroite entre les églises d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la prévention des abus sexuels sur les enfants. À ce jour, le Panama compte un total de 463 000 cas de COVID-19 avec 7159 décès. La campagne de vaccination se poursuit et a atteint jusqu'à présent 49% de la population. Le ministère de la Santé a donc décidé d'assouplir certaines restrictions, notamment celles concernant l'accès aux lieux de culte. La décision a été immédiatement acceptée par la Conférence épiscopale nationale de Panama qui a publié une déclaration appelant à la réouverture des églises et à la tenue des célébrations liturgiques. Dans la note, il est précisé que la capacité des lieux de culte est portée à 50%, chiffre qui peut être porté à 80% si tous les participants présentent un laissez-passer vert.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Oh, my God.